Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
L'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, comme chaque mercredi 19h-19h30 en direct et en rediffusion le jeudi dès 13h30, la petite demi-heure pour épingler l'actualité des scènes qui se passent à Bruxelles. Et j'ai à côté de moi Nicolas, Elisabeth et Sophie. Bonsoir, bonjour à vous.
Bonsoir, bonjour.
Salut.
Alors cette semaine, création, on ira du côté de Amen, le vicaire. La pièce s'appelle Le vicaire de Roald Anschluss, réadaptée dans un titre Amen, et ça se joue au théâtre des galeries. On ira du côté de l'Océan Nord pour un polar ou une tentative de polar qui s'appelle On se suivra de près de Aurélie Namur, mis en scène par Félix Artaud. Un polar, une histoire de meurtre. On ira du côté des Riches Claires avec Diotime et Les Lions, un texte d'Henri Beauchaud, et c'est le projet de la comédienne Van Vive, j'ai oublié son prénom, Stéphanie Van Vive. On ira du côté des reprises, alors Habituation au Théâtre National de Anne-Cécile Van Dalem, qui est en lice dans les prix du théâtre cette année, un résultat lundi prochain. Et on ira du côté de Europalia Brésil, une bonne pièce qu'on avait eu l'occasion de le voir dans le cadre du Kunsten Festival des Arts et qui revient pour 3 soirs au théâtre 140, et c'est un classique vraiment revisité, La Mouette de Tchekhov. Mais là, je me retourne vers le théâtre des Galeries et ce vicaire de Roald Anschluss réadapté en Amen, Elisabeth.
Oui, alors c'est aussi un classique revisité puisque c'est une pièce qui date en fait de 1963. C'est un auteur, un dramaturge allemand plutôt engagé qui en fait a cherché à épingler un peu l'attentisme du Vatican. Donc ça nous replonge bien sûr à l'époque des camps. C'est d'ailleurs là-dessus que s'ouvre le décor. On a les grilles d'Auschwitz et Arbeit macht frei. Donc une phrase tristement célèbre. Alors c'est une pièce de facture finalement classique, mais c'est un très très beau spectacle avec une distribution importante. Ils sont une bonne quinzaine sur le plateau. Et c'est une pièce qui fonctionne autour de deux personnages centraux, qui sont en fait un jeune Allemand et un jeune prêtre italien qui essaye un petit peu de s'opposer à ce qui se passe, c'est-à-dire à cet holocauste. Voilà. Et ils essayent d'entrer en contact avec le pape. C'était Pie XII à l'époque. Et puis, voilà, ils essayent en fait désespérément d'avoir une réaction, une condamnation franche, etc. Et on a un véritable débat d'idées qui s'installe de scène en scène avec la justification, la réaction des cardinaux, enfin de tout l'appareil du clergé et tout ça. Et c'est une pièce qui en fait suscite encore aujourd'hui la polémique puisque on en parle, mais en dehors des cénacles tout à fait culturels, etc. Mais je pense qu'elle est vraiment intéressante dans ce qu'elle nous rappelle, parce que moi je l'ai ressentie comme étant pas du tout vieillie dans son propos. On sent pas du tout que c'est quelque chose qui date de 63. C'est finalement une pièce sur le droit ou le devoir d'ingérence, et jusqu'où ça va, comment, et puis le choc des individus par rapport au système, quel qu'il soit, et tout ça. C'est aussi une pièce au niveau de la distribution. On retrouve évidemment des comédiens, des valeurs sûres, on va dire, Pascal Racan, Gérald Marty, Jean-Paul Frison, parce que je ne me mélange pas dans les prénoms, mais bon, tout ça. Et puis, alors, quelques petits, on a aussi Michel Poncelet, enfin Bernard Sens, tous des acteurs qui ont
que
vraiment...
Que des hommes sur scène ?
Que des hommes, oui, oui. Et donc, on a aussi quelques petits jeunes, et les deux personnages autour les choses se passent, sont aussi tout à fait à la hauteur.
C'est mis en scène par Jean-Claude Didet. Hein,
c'est mis en scène par
généralement des mises en scène assez simples, mais belles.
Oui, c'est simple, c'est une très belle scénographie aussi. Il y a une petite ponctuation musicale avec Anouk van Gansevoort, qui, elle, est la seule femme, effectivement, qui chante, qui joue de l'accordéon, qui vient faire un peu respirer tout ça. Il y a des changements de rôle aussi, parce qu'il y a énormément de rôles dans la pièce. C'est peut-être une des raisons pour laquelle on ne l'a pas monté beaucoup plus souvent. Et donc, c'est une belle découverte.
Le prêtre et l'allemand arrivent à prendre du relief face à la masse, on va dire, vu qu'il y a une grande distribution. Ils arrivent... On est entre le débat d'idées de ces deux et puis le jeu du camp, entre guillemets.
On n'est pas vraiment dans le camp, mais on est vraiment sur la manière dont ils arrivent, l'un en étant de l'intérieur et en luttant vraiment de l'intérieur, en essayant d'être un peu double agent comme ça, d'essayer de faire passer ce message, de sonner l'alerte. Il faut se dire aussi que c'était un catholique dans une Allemagne où il y avait beaucoup de protestantisme, donc il faut se remettre un petit peu dans le contexte historique. Mais c'est pas tout à fait gênant d'avoir aussi peu de lettres et d'histoire que moi, par exemple. On suit vraiment tout à fait le propos de la salle. Le propos de la pièce, on parle du concordat, mais si on regarde dans le programme, il y a toutes les infos qu'il faut, et franchement, ça passe comme ça. Et puis, il y a ce jeune, on va dire, prêtre italien, qui, lui, fait aussi ce qu'il peut pour aller sonner, pour aller au Vatican, pour remonter jusqu'au pape et pour aller lui dire en face, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et on a chaque fois la réponse, évidemment. Ce qui fait que c'est vraiment le débat d'idées auquel on assiste et ce qui rend cette pièce intéressante.
Est-ce qu'il y a une accusation?
Il y a une accusation, bien sûr, en filigrane, parce que tout tourne autour. Pourquoi est-ce que l'Église ne réagit pas officiellement, alors que clairement, visiblement, elle savait ce qui était en train de se passer? Mm-hmm. Et donc, on n'est pas du tout dans un spectacle qui reproduit l'horreur des camps. Non, ils sont juste... Voilà, on a ce magnifique criage qui est, à défaut d'être magnifique, est efficace, parce que, OK, on sait tout de suite ce que ça veut dire. Mm-hmm. On a évidemment tous les SS, on a ces personnages-là qu'on connaît parce qu'il y a eu énormément de films, entre autres, et tout ça. J'ai eu la chance de naître après la guerre, donc évidemment, c'est une connaissance qui nous a été transmise comme ça. Mais franchement, non, ça fonctionne vraiment bien. Aussi parce que toute la distribution est unanimement bien. Enfin, il y a vraiment personne qui pêche. Les petits rôles sont vraiment à la haute. Enfin, les petits rôles, entre guillemets, déjà, ils sont doubles et tout ça. Mais tout ça est vraiment homogène. Et franchement, non, c'est une très belle découverte.
Pour situer aussi un peu nos auditeurs, rappelons que cette pièce avait fait l'objet d'une adaptation au cinéma, notamment de Costa Gavras, Amen. Et déjà à l'époque, ça avait suscité pas mal de polémiques. Hein. C'était en 2002. Voilà. Et ici, on sait que tout autour de la pièce aussi, il y a quelques polémiques autour de ça.
Mais justement,
oui, il y a même certains soirs où les tracts se distribuent à la sortie. Donc, il faut bien préciser que c'est quand même une vraie soirée au théâtre aussi. Ça commence à 20h15, ça se termine à 23h. Mais franchement, ça passe, il y a un entracte au milieu, mais ça n'a rien de pesant, c'est vraiment ça.
Et donc, pour arriver au périphérique, il y a des cathos qui viennent mettre des tracts. Donc, juste pour dire un mot, c'est qu'à Paris, la pièce de Castellucci, ils sont partis sur scène, ils ont emmerdé, il n'a pas pu jouer sa pièce sur le visage du Fils de Dieu, qui est un spectacle très lumineux, on en reparlera à l'occasion. Ça passe au single.
Voilà. Et ici, mais là, c'était vraiment la distribution de tracts à la sortie, donc on n'a même pas le temps de digérer ça, que bouffe, on nous reçoit des tracts, bon, on les prend ou on ne les prend pas. Mais c'est vrai que j'ai lu les tracts, il y a des arguments qui sont plutôt légers, parce que c'est vrai que la pièce est un fait allusion à des personnages historiques, mais aussi à des personnages fictifs. Et donc, sur le tract, on nous dit que le père Ricardo Fontana n'a jamais existé. Ben oui, voilà, il incarne un point de vue, il incarne peut-être quelque chose qu'on aurait dû plus faire, c'est-à-dire se révolter. Et voilà, donc...
Est-ce que ça dérange? C'est un cercle catholique? Je veux dire, c'est du monde catholique intégriste. Hein. On ne va pas non plus jeter la pierre aux cathos, quoique...
J'imagine que oui, c'est la Belgique chrétienne, donc voilà, Belgique et chrétienté, enfin c'est un petit peu loin de mes sphères habituelles, mais c'est la première fois que je l'ai rencontré, mais voilà.
Ça ne dérange pas le spectacle en soi?
Non, le spectacle n'est pas dérangé, mais je pense qu'il y a eu des remous quand même aussi, on en a parlé un petit peu plus loin que juste... dans une émission comme celle-ci consacrée au théâtre.
Allez vous confronter au tract des cathos, n'hésitez pas à en mettre une par-ci par-là et allez voir cette pièce.
Mais allez voir cette pièce parce qu'elle le mérite, c'est vraiment un beau travail. Une belle adaptation aussi, c'est jusqu'au 20 novembre.
Jusqu'au 20 novembre au théâtre des
Galeries, 20h15, n'oubliez pas.
20h15. Je me tourne là vers Sophie. Sophie, toi tu es partie à l'Océan Nord, toi aussi c'est la mort, hein, on va dire, un meurtre, on se suivra de près.
Oui, alors je rectifie tout de suite, c'est pas un meurtre, et c'est en fait on ne cherche pas un meurtrier dans cette pièce, c'est bien une enquête policière, un polar, mais on recherche l'identité de la victime en fait. Et voilà, donc c'est un texte d'Aurélie Namur, une mise en scène de Félicie Artaud. Elle nous emmène dans cette enquête policière... Donc en fait, une jeune femme est retrouvée morte, probablement de froid, sur un banc public. Et la police, pour suivre son protocole, a 6 jours pour identifier cette victime et qu'elle ne soit pas enterrée de façon totalement anonyme. Et voilà, à travers cette histoire-là, il va y avoir différents individus de cultures et de conditions différentes qui vont se rencontrer et qui vont un peu échanger autour de cet événement, de cette jeune femme dont on ne sait rien. Et voilà, ça va les rapprocher sur la considération de l'homme et le fait d'avoir des témoins de vie et voilà, l'importance de la mort et de ne pas mourir seule, dans l'anonymat en tout cas.
Et question, est-ce qu'on sait à la fin qui est la victime ?
Est-ce qu'il faut vraiment le dire ? Je ne sais pas
si le sait.
Pas vraiment. Pas vraiment.
Il ne faut pas le dire.
Non, mais il y a des petits
suspens.
Mais...
Oui,
mais c'est pas le but.
C'est
pour
un enjeu
moi.
Un peu social, peut-être ?
Oui, voilà. C'est plutôt un enjeu social qu'une véritable enquête, même si tout est basé là-dessus. Mais voilà, malgré que ce soit une enquête et donc un polar théâtral, comme c'est présenté, la tension n'est pas vraiment palpable. Parce qu'il faut préciser qu'en fait, il y a deux univers qui se côtoient dans cette pièce. Donc le commissariat de police dans son quotidien, les rencontres avec quelques témoins, etc. Et un univers beaucoup plus poétique qui est en fait la morgue, la salle mortuaire, où la jeune femme repose, et avec l'embaumeur ou le thanatopracteur qui va venir la préparer, lui faire sa toilette, la maquiller, l'habiller, etc. Et dans ces moments plus poétiques, on a une voix off. Donc en fait, là, la comédienne, c'est en fait la metteur en scène.
L'auteur Aurélie Namur.
Voilà, Aurélie Namur, qui joue le rôle de cette jeune femme. Et il y a une voix off, très, très poétique, hein, des réflexions sur la naissance qu'on a tous en commun, sur l'apprentissage, sur la mort. Et c'est aussi ces moments-là, ces scènes-là, laissent place donc au silence, à la poésie et au mouvement, puisqu'il y a un peu de danse aussi. C'est un peu la façon qu'a cette femme de s'exprimer au-delà de la mort.
Et donc c'est un rôle de composition où elle ne parle pas ?
Elle ne parle pas. Il y a cette voix off, mais sur scène, elle ne parle pas, non. Et enfin voilà, donc ces deux univers se côtoient, ils sont alternés. J'ai trouvé que bon, c'était la première hier. La tension, comme je l'ai dit, n'était pas palpable. On attend un peu que ça explose un peu. Je sais pas, qu'il se passe quelque chose et ça reste assez linéaire. Après, il y a quand même de très chouettes éléments qui sont mis en scène, notamment au niveau de la rupture de l'illusion théâtrale. Alors, on a un des personnages, le premier qui entre sur scène, c'est une espèce de messager qui sort de l'Antiquité, et il est là pour la tragédie. Voilà, il le dit, il vient réciter son texte en alexandrin, il s'est passé une tragédie, et il est là pour ça, donc en costume antique, on se dit un peu, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et finalement, c'est assez bien fait, parce que au fur et à mesure, il entre complètement dans l'histoire, il intervient avec le personnage, et il va trouver un boulot au commissariat. Donc, il y a un côté, on joue là-dessus. Au départ, il a le don d'ubiquité, il voit ce qui se passe... et dans le commissariat, et dans la morgue. Et puis au final, il entre tellement dans cette histoire, il devient un des personnages principaux.
Il y a des adresses au public.
Totalement, il y a énormément d'adresses au public. Donc dès le départ, on est considéré comme faisant partie des enquêteurs. Mm-hmm. Voilà, le policier s'adresse à nous et dit, allez, il va falloir, on n'a que 6 jours. Et voilà, donc il y a beaucoup d'adresses au public, en effet.
Donc, on se suivra de près à l'Océan Nord.
Et c'est jusqu'au samedi 19.
La conspiration.
Retour à la conspiration des planches. Et on va directement au Riche-Clair pour le projet de Stéphanie Van Vief qui met en scène Diotime et les lions.
Voilà, alors Diotime, qui est-ce ? Ben, c'est un personnage mythologique. Alors, c'est une nouvelle, en fait, d'Henri Beauchaud, qui est un auteur, un de nos grands auteurs belges. C'est quelqu'un qui est né en 1913 et qui vit toujours à Paris. Il a quitté la Belgique pour aller à Paris, et suite à voilà, plein de choses, il est devenu psychanalyste, en fait. Et donc, c'est un écrivain, il a quand même plusieurs, un poète, un écrivain. Et c'est surtout quelqu'un qui a fait une percée internationale avec Oedipe sur la route, qui est vraiment une reprise des grands personnages Antigone, Oedipe. Et cette petite Diotime, qui est en fait un personnage qui est dans Oedipe sur la route, qui est une guérisseuse, en fait. Mais à l'origine, il y avait un chapitre entier qui lui était consacré, qui finalement a été retiré. C'est vrai qu'Oedipe sur la route, c'est déjà une brique. Et donc, on a Diotime et les lions, qui est un récit initiative d'Henri Beauchaud que Stéphanie Van Vive nous propose dans une forme très proche du récit, en fait, vraiment toute simple, avec vraiment une ligne claire. Alors, je ne vous ai toujours pas dit qui est Diotime. Mmh. En fait, on remonte, puisqu'on est mythologie, on est du temps des Perses. Du temps, l'organisation de la société clanique des tribus. Et c'est une jeune adolescente qui, finalement, est assez proche des personnages importants de son clan. Et elle descend tout directement de gens qui descendent des lions. Et le problème, c'est qu'elle se sent, elle aussi, très lion. Et enfin, ça a l'air abstrait comme ça, mais il faut toujours tout inscrire dans une perspective un peu psychanalytique. Et en fait, sa tribu a la particularité d'organiser une chasse rituelle aux lions. Ça dure plusieurs heures et seuls les hommes sont admis à aller chasser les lions pour leur rendre hommage, en fait. Et cette petite Diotime, déjà toute petite, eh bien, c'est un peu garçon manqué et elle sent qu'elle a elle aussi envie d'aller chasser les lions. Hop, sa mère lui dit « Non, c'est pas possible, tu es une femme, enfin, tu es une fille. » Et puis, finalement, de fil en aiguille, elle y arrive, on a sa chasse au lion, et puis survient un grec. Et là, on se rend compte d'une première dichotomie, on a l'instinct d'un côté, et puis on a la civilisation qui arrive, la Grèce, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe amoureuse, évidemment, cette brave Diotime. Enfin voilà, ça c'est un petit peu pour l'histoire, c'est vraiment un récit à tiroir aussi. Et la proposition de Stéphanie Van Vief est de s'attaquer à cette nouvelle d'Henri Beauchaud, mais vraiment, le terme qui me vient vraiment à l'esprit, c'est cette ligne claire, c'est-à-dire de ne pas la théâtraliser. On n'est pas du tout, on est plus ou moins dans un cas de figure comme Amain Médéa, qui est une tragédie, etc. Mais là, c'est plus le côté récit conteuse, elle est la narratrice de son propre personnage, donc elle est Diotime de bout en bout. Et elle nous raconte les choses chapitre après chapitre. Une autre particularité, avec vraiment ligne claire, en n'en faisant pas trop, de manière très, très, très calme, avec un ton, peut-être certains diraient un peu trop monocorde, peut-être un peu quelque chose qui n'évolue pas encore assez, mais c'est vraiment une option.
Tu l'as vu à la première en plus, mais oui, c'est une excellente comédienne.
Oui, oui, tout à fait, et c'est vrai que c'est quand même une tartine, hein, comme on dit, ce texte aussi. Mais Henri Beauchaud a une écriture qui... Enfin, que moi, j'aime personnellement beaucoup, mais qui est une écriture qui traite des sujets vraiment mythologiques, qui les façonne de manière à ce que ça puisse avoir une résonance en chacun de nous. On parle évidemment de l'individualité. Ce récit est un récit d'initiation. Comment est-ce que cette sauvageonne va arriver à trouver finalement la sérénité en devenant elle-même, en affrontant ses lions? Enfin, les lions sont un petit peu partout, mais ils ont un poids symbolique aussi.
Il y a probablement un déplacement sur scène, parce qu'elle est dans le récit, elle n'est pas spécialement dans le jeu.
Non, on n'est pas dans un jeu très théâtralisé, mais c'est sûr qu'elle bouge, bien sûr. Mais ce n'est pas la tragédienne, la force à tout prix, ça crie. Non, on est vraiment plutôt sur quelque chose...
Et dans la sobriété, sans images, vidéo, sans son.
Sans images, sans rien. Il y a juste une scénographie qui est très belle, mais très simple, tout à fait épurée, un rectangle, de la lumière, un carré au sol. Et il ne faut pas oublier le deuxième ingrédient, parce que c'est un seul dans scène, mais assisté, on va dire, puisqu'elle est avec un danseur, ce qu'on peut appeler un danseur organique, en fait, quelqu'un qui pratique...
Zan Aksoyek.
Voilà, qui pratique des danses, plus de mouvements, etc., qui incarne en fait toute la corporalité qui est présente là-dessus, puisque à travers cette initiation de Diotime, c'est aussi sa découverte de l'amour et de tout ce qui va avec, de son corps, enfin, toutes des choses comme ça. Mais c'est aussi une manière de nous raconter la même histoire, mais cette fois-ci sans les mots, juste avec l'image et une image très corporelle. Alors, il y a des moments où ces mouvements se passent à deux. Donc, on peut se dire qu'on a le lion qui arrive sur la scène, etc. Et puis, on a la rencontre entre les deux adolescents.
Et les cassures sont faites ou c'est plus vers une fluidité qu'on passe du récit au mouvement?
Je ne sais pas si on peut parler de cassures. Pour moi, j'ai ressenti les choses plus comme un chapitre et puis l'autre. Un chapitre, une respiration où on nous raconte de l'histoire autrement, et puis un autre chapitre comme ça. Donc moi j'en ai gardé le souvenir de quelque chose de très lisible. J'ai un peu laissé traîner mes oreilles à droite et à gauche. Je pense que certains vont peut-être effectivement regretter un tout petit côté de manque de force, etc. Mais c'était aussi la première. C'est vrai que c'est inévitable quand on a un texte pareil qui reste une tension.
Aller, là, il faut rentrer
dedans. Mais bon, il y avait une écoute tout à fait certaine dans la salle. Ça reste évidemment du théâtre de texte, bien sûr.
Et l'affiche est très belle, moi, je trouve.
Voilà, mais c'est vrai que c'est une très belle proposition. Et puis c'est vrai que c'est un de nos grands auteurs. Donc c'est une manière d'aller goûter à cette langue, encore une fois, très simple et...
Et une de nos bonnes comédiennes, Stéphanie Van Vive, son projet Diotime et les lions d'Henri Beauchaud, c'est à voir au Riche Clair jusqu'au
26.
Et avec Zana Aksoyek,
ne l'oublions pas.
Périphérie, ça fait un beau duo assez étonnant parce que Zana Aksoyek, on le connaît dans Bruxelles, dans différentes formations sur des méthodes Feldenkrais, un peu yoga ou méditatif, et de le voir sur scène.
Voilà, mais on voit qu'ils s'y sont mis tous les deux et qu'il y a une recherche de ce côté-là aussi.
C'est à voir au Riche Clair. Alors moi, je vous emmène pour deux spectacles à voir, des reprises, on va dire. Une au Théâtre 140, alors c'est le 12, 13 et 14, c'est dans le cadre Europalia Brasil. C'est un des spectacles qu'on n'a pu voir au Kunsten Festival, donc c'est La Mouette, revue et corrigée par Enrique Diaz. Alors, il faut un peu connaître la trame de l'histoire pour rentrer dans ce spectacle. C'est de Tchekhov qui raconte un peu le temps, les amours dans des familles bourgeoises assez décadentes. Ici, c'est un fils qui se prend la tête avec sa mère est comédienne, lui, il essaye de devenir dramaturge. Il aime Nina qui, elle rêve d'être comédienne, et Nina tombe amoureuse de l'amant de la mère qui, lui, évidemment, est un comédien connue, mais elle va se planter complètement et il y a tout un désœuvrement tchékovien qui file dans la pièce. Et la mouette, c'est en fait cette Nina qui perd tout et qui risque de crever sur un coin de lac. Ça, c'est pour la trame, mais vraiment grosso modo et grossièrement. Enrique Diaz nous en fait comme une salle de répétition. Ils sont tous là, il y a une dizaine de comédiens, c'est un collectif, et ils essayent de se dire, mais putain, comment on va monter cette mouette? Et tout en se posant des questions sur le temps, par exemple le temps chez Tchekhov qui est important, en disant mais comment on met en scène le temps, tout en se posant ces réflexions, de temps en temps il s'interpelle par le nom des personnages et on rentre dans la pièce comme ça, un peu en périphérie, en discret, et à un moment donné, c'est très drôle, il y a des moments d'humour, à un moment donné ils doivent monter sur scène, ils doivent montrer sur scène la mouette. Et ils n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'on fait pour montrer une mouette sur scène? On ne va pas prendre une mouette, ça fait un peu ringard. Et il y a tout un humour comme ça de va-et-vient entre les coulisses et le spectacle en train de se faire, qui est très succulent. C'est à voir au Théâtre 140.
Est-ce que c'est une proposition en français ou bien
C'est en portugais, hein. C'est en portugais, voilà, sous-titré en français. Quoi. Moi, je vous conseille toujours des spectacles en VO, c'est succulent, avec un sous-titre français. Ça vaut le coup de voir des spectacles dans une autre langue. Autre ovni, on va dire, c'est Habituation d'Anne-Cécile Van Dalen. Alors Anne-Cécile Van Dalen a été remarquée déjà par un spectacle précédent qui s'appelle Self-Service. Elle se démultiplie en un personnage qui se démultiplie. Elle est très axée sur la technique. Ici, elle nous montre Habituation. Et c'est un volet, elle appelle ça la trilogie de la parenthèse. Elle fait un travail sur l'isolement et l'agonie dans l'isolement. Ici, elle s'attaque à la famille et c'est une famille qui est en train d'agoniser dans un quotidien qu'elle ne voit même plus. Et l'implosion va venir de leur fille. En fait, les personnages sont très bien croqués. Il y a une tante qui est chauffeuse de bus, il y a une mère qui travaille dans les assurances et il y a un père qui fait chez lui son entreprise de saumon fumé. Il passe toute la pièce à couper le saumon et ils ont promis à la fille justement un voyage au centre en Norvège et le voyage ne viendra jamais. Alors la fille, en douceur, elle pète un câble et ce qui est intéressant, c'est comment on voit le végétal envahir la scène. Alors au début, vous avez l'impression d'halluciner parce que vous voyez une plante qui apparaît dans le décor et vous vous dites je rêve ou pas, et puis tout doucement tout prend comme ça et ça devient à un moment donné tout un spectacle fantastique onirique où la scénographie est hyper importante et elle devient végétale, elle envahit toute cette maison. C'est une curieuse expérience, ceux qui aiment le fantastique vont vraiment apprécier parce que ça démarre d'une réalité très naturaliste et qui vire vers le fantastique. Méfiez-vous de vos enfants. Habituation, c'est au Théâtre National et je n'ai pas les dates, c'est du 8 au 12 et Anne-Cécile Van Dalen pour ce spectacle a été nominée dans les prix du théâtre. Elle est lauréate, on verra bien lundi si elle aura le prix du meilleur spectacle ou non. Pour vous dire justement que les prix du théâtre, c'est lundi soir au Théâtre National. Les inscriptions pour assister à la représentation se déroulent à la Bellone. Et sur ce, On termine l'émission, je vois Nicolas qui me regarde. Bonne soirée, bonne planche à tout le monde.
En tout cas, j'ai l'impression qu'avec le soir qui tombe, on est comme ça en petit comité, on est comme ça. On voit que c'est l'hiver.
Je vois une plante dans le studio
et qu'on recourt au théâtre. Alors voilà, on a parlé quoi ? On a parlé du vicaire, on a parlé de Diotime. On est parti à l'Océan Nord avec On se suivra de près et puis Habituation et la mouette en reprise. Bonne planche à tous, il y a de quoi faire, il y a le bonheur pour tous, il y a moyen de trouver sa pièce qui nous convient quoi.
RadioCampusBruxelles.org pour toutes les informations sur ces spectacles. Demandez le programme.be pour le podcast et également le centre de ressources de la Bellone sur www.bellone.be. Belle semaine à vous. La constelación.